C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la lumière, le froid, le chaud, la vitesse et les communications ont un point commun. Pour les fabriquer, il faut de l'électricité. Le milliard d'humains qui n'y a toujours pas accès le sait bien. Accéder à une source d'énergie, c'est l'espoir du progrès. Un progrès qui s'est emballé à tel point qu'aujourd'hui, la combustion du charbon, du gaz et du pétrole pollue notre atmosphère et dérègle le climat. De gigantesques réseaux électriques quadrillent désormais la planète, accompagnés par leurs cousins numériques. Nous sommes tombés dans le piège de la dépendance, nous sommes drogués et cela va être dur de se désintoxiquer. C'est ce que démontrent brillamment nos deux invités dans leur dernier livre « La servitude électrique, du rêve de liberté à la prison numérique ». C'est publié aux éditions du Seuil.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Alain Gras.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de socio-anthropologie des techniques à la Sorbonne. Bonjour Gérard Dubey.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et professeur à l'Institut Mines Télécom Business School. Vous êtes tous les deux chercheurs au Centre d'études des techniques, des connaissances et pratiques. Et vous venez de publier donc La servitude électrique du rêve de liberté à la prison numérique dans l'excellente collection Anthropocène des éditions du Seuil. Alors Gérard Dubey, c'est quoi cette servitude électrique ?
Si je considère uniquement ici nos usages numériques, la servitude... La servitude électronumérique, ce serait finalement le fait que par nos simples usages quotidiens de tous les outils numériques qu'on utilise aujourd'hui, les smartphones, les ordinateurs portables, et tout ce qui s'ensuit, toutes les applications qu'on utilise quotidiennement, c'est que ces objets ne sont pas des objets techniques comme les autres, en fait. Elles se sont banalisées, mais ces objets sont des objets systèmes, sont des objets qui nécessitent de se brancher, de se connecter. De se connecter, de se brancher à des réseaux énergétiques qui vont fournir l'énergie qui permettent à tous ces objets de fonctionner, mais aussi à des réseaux informationnels qui vont alimenter en information ces outils. Un smartphone, par exemple, ce n'est qu'une interface qui nous connecte à autre chose de très vaste et finalement dont la dimension nous est invisible localement, est complètement cachée. Ça va être les lignes à haute tension qui vont apporter l'électricité jusqu'à la prise sur laquelle on va brancher et recharger nos smartphones. Lignes à haute tension, ça suppose aussi derrière des centrales électriques, des centrales à charbon, des centrales à fioul ou des centrales nucléaires. Derrière les centrales nucléaires, il va y avoir des mines d'uranium, l'exploitation de l'uranium dans certaines contrées du monde. Derrière les éoliennes, si on parle là de l'approvisionnement par des énergies dites renouvelables, il va y avoir l'exploitation aussi de terres rares. Derrière les lignes à haute tension, il y a du cuivre, il y a des mines de cuivre. Il va y avoir l'exploitation, l'extraction de ces mines de cuivre. Il va y avoir les super tankers, il va y avoir tout un tas des oléoducs, toutes les infrastructures, les millions de kilomètres de câbles sous-marins qui vont permettre à ces informations de circuler dans le monde, etc., etc., etc.
Alors, nous allons évidemment détailler tout cela. Alain Gras, est-ce que vous voulez donner votre définition de la servitude électrique ?
Je crois que Gérard vient de démontrer en quoi elle est très moderne. Elle est liée donc à l'électronumérique. Mais cet électronumérique, il a été avant électrique. Il est la suite d'un processus qui est long. Et c'est un processus, en fait, qui recouvre la planète et ce qu'on appelle les macrosystèmes techniques, dont l'électricité est un bel exemple parce qu'elle a des réseaux qui sont interconnectés bien avant que le numérique existe. Des réseaux électriques ont été interconnectés avec une puissance dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est, où elle est. Il y a des centres de régulation qui, en fait, nous fournissent l'énergie, mais qu'on ne peut pas vraiment connaître l'importance, dont on ne devrait pas savoir s'ils sont liés à un état ou à plusieurs états. Je devance ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer. Je donne l'exemple de ITER. ITER, vous le savez, c'est la grande illusion, disons, de ceux qui sont les adorateurs de la technologie et qui pensent que le futur passera par la possession d'une énergie sans limite.
Il faut expliquer ce que c'est qu'ITER rapidement.
D'accord. ITER, c'est essayer de reproduire la fusion solaire avec une puissance magnétique extraordinaire. Donc, ITER pourrait alimenter la moitié de la planète. Et pour alimenter la moitié de la planète, il faut des réseaux extraordinaires, il faut des câbles. C'est-à-dire que ça néglige totalement la réalité du monde qui est une réalité de conflit. Comme si un centre énergétique, ça pouvait dépasser toutes les difficultés sociales et politiques que l'on rencontre dans la vie. Alors ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est des macro-systèmes techniques. Nous vivons dans un univers de macro-systèmes techniques qui nous dépassent et dont on ne sait pas bien qui est à l'origine. Mais alors ça, c'est par exemple pour Google, pour Amazon, qui, on le voit encore très récemment, décide à la place des États et se positionne au-dessus des États. Et tout ça, c'est électrique. Et d'autre part, juste pour terminer sur la servitude, c'est que nous sommes asservis toujours à l'énergie fossile. Parce que l'électricité, ce n'est pas une énergie, ça il faut absolument le dire, n'est-ce pas? Et que cette énergie, elle est produite par des sources qui sont toutes fossiles, ou presque toutes, parce que l'uranium, c'est du fossile aussi.
Alors, nous allons revenir sur les sources de l'électricité qui garantissent le progrès depuis le 19e siècle, finalement, et le progrès, le mirage, en tout cas, du progrès que l'on nous vend aujourd'hui, c'est ça.
Les 5 jours genre vont commencer.
Et pourtant,
pas besoin de 5 jours pour choisir un téléphone 5G, surtout à ce prix.
Bah déjà des nouveaux téléphones 5G.
C'est tout Alain ça.
5G.
La vitesse c'est son plaisir.
5G.
Et ce nouveau téléphone à prix réduit.
5G, il fait bien plaisir.
Et oui, il fait bien plaisir, une nouvelle technologie donc, mais qui ne fait pas rêver tout le monde cependant. Par exemple, Kom Gersching, un jeune de 24 ans, est très critique, il est fondateur et porte-parole du collectif Procès 5G.
C'est une nouvelle infrastructure de réseau de télécommunications qui permettra d'une part d'accélérer les échanges existants comme la 4G mais en beaucoup plus rapide et aussi de développer ce qui s'appelle l'Internet des objets. Et parmi les applications directes prévues par les autorités françaises, il y a notamment apparemment quelque chose de très important qui est la réalité virtuelle sans fil. Autrement dit, ça veut dire se promener dans la rue ou peut-être chez soi, avec des lunettes qui reproduisent une réalité alternative, augmentée, avec d'autres informations. Et je pense que c'est pas une caricature, c'est vraiment, on a là un symptôme, justement, de notre incapacité à faire face au réel, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en voie d'effondrement extrêmement rapide. Je suis inquiet pour deux raisons. La première, c'est que je pense que la méthode qui a été adoptée pour déployer cette technologie est symptomatique d'une démocratie qui est en train de perdre de la vitesse, parce que personne n'a réellement décidé ça, si ce n'est la Commission européenne et quelques grandes entreprises. Il y a un manque réel de débat public, un manque d'appropriation d'une infrastructure qui n'est pas juste une simple continuation de la 4G, comme je l'ai expliqué, c'est aussi une matrice qui va permettre le déploiement des objets connectés, et je pense que ça mérite discussion, tout comme ça aurait mérité discussion avant le plan Messmer, où on a déployé l'industrie nucléaire en France. Et l'autre point, c'est la technologie elle-même qui est présentée comme le progrès, c'est-à-dire la voie normale du progrès. Elle est censée, par exemple, développer la téléchirurgie, les voitures autonomes, la réalité virtuelle sans fil, le débit HD partout où qu'on soit dans la rue. Il y a sûrement de grandes avancées là-dedans. Par exemple, la télémédecine peut être considérée comme un usage qui est réellement légitime, mais est-ce que c'est pas possible de le faire avec la fibre, par exemple? Et d'autres paraissent décorrélées de l'état du monde aujourd'hui, et notamment de l'état en termes de climat et de biodiversité.
Gérard Dubé, comment réagissez-vous à ces propos de Kom Gersching?
Je me reconnais dans ce qui vient d'être dit. Ça rejoint les arguments qu'on avance, qu'Alain et moi avançons dans notre ouvrage. C'est-à-dire que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette idée de connexion d'objets connectés à des systèmes gigantesques et invisibles à l'échelle locale, au niveau des usages, ça suppose une refonte complète de notre milieu de vie, de nos milieux de vie. C'est-à-dire la constitution, effectivement, d'un espace-temps complètement artificiel. On pourrait s'interroger encore sur cette dimension artificielle. Mais en tout cas, ça nous engage sur une voie unique, qui est celle, effectivement, du codage, de l'encodage et des mondes numériques. Refonte complète du milieu, bah, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça suppose derrière, de toute façon, l'extraction minière. Ça suppose l'exploitation massive d'absolument toutes les ressources de la planète, y compris des ressources humaines.
Et ça pose la question de la démocratie. C'est cette question-là que pose Kom Gersching. Et dans votre livre, vous expliquez que finalement, c'est l'aboutissement des choix technologiques que nous avons faits depuis le 19e siècle.
Oui, absolument. Il y a quand même, derrière tout ça, des formes de domination très marquées, hein. on peut pas dissocier l'économie productiviste et extractive qui se met en place avec les révolutions industrielles du 19e siècle et cette dimension politique complètement adémocratique. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment là de rapports, encore une fois, d'exploitation derrière, de domination aussi bien des hommes que de la terre, que des ressources naturelles. Il n'y a rien de démocratique là-dedans. Il n'est pas question à aucun moment de débattre, de délibérer, ni même d'argumenter. J'écoutais l'autre jour sur une radio concurrente, excusez-moi, le gouverneur de la Banque de France qui vient de sortir un bouquin sur refaire confiance à l'économie et qui nous expliquait, mais sans argumenter, sans avoir besoin de le faire finalement, comme s'il s'agissait d'une évidence et d'une sorte de fatalité inscrite dans la nature, que si l'économie financière se portait si bien que ça, c'est parce que elle représente les nouvelles valeurs actuelles des technologies et que ce monde-là était de toute façon le monde de demain et qu'il fallait absolument pas s'inquiéter de l'état de l'économie réelle qui était mal en point parce que cette économie réelle, finalement, c'était l'économie d'hier. Elle était déjà d'une certaine manière morte. Tous les gens qui participaient devaient en faire le deuil. Et puis voilà, donc il n'y a pas de question, il n'y a même pas à s'interroger. C'est une fatalité.
Alain Gras, rapidement, sur cette histoire de domination et de démocratie par les technologies.
Ça commence justement avec l'Anthropocène, ça commence avec les grands systèmes, le réseau ferré et l'électricité. C'est les deux premiers qui se mettent en place avec des centres de régulation qui sont purement techniques, ou qu'on nous affirme qu'ils sont purement techniques. Et donc, on n'a plus du tout de pouvoir politique dessus. Et même aujourd'hui, on voit bien donc les États qui sont en fait complices des GAFA, et les GAFA complices des États. Au nom de la technologie et du progrès technique, on est complètement démuni par rapport aux habitudes que nous avions acquises dans la démocratie parlementaire et dans la démocratie aussi, qui est la discussion et la libre discussion sur les choix que nous faisons pour l'avenir. Aujourd'hui, nous n'avons plus de choix à faire pour l'avenir. Ils sont imposés d'en haut et la technologie joue un rôle capital là-dedans. Par exemple, avec l'illusion de la conquête de l'espace. C'est branché, en fait, les uns sont interconnectés, on pourrait dire, avec le numérique. On nous met dans un univers qui est purement technologique, on nous appelle ça le progrès.
Alors, une vision du progrès qui repose, vous l'avez mentionné tous les deux, sur l'extraction de matières premières, une extraction qui a des conséquences gigantesques. Nous en parlons juste après Tikenja Fakoli, Conakry, électricité.
Électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. Conakry, électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. Quand Madina a l'électricité, ma toto attend comme chez le coiffeur. Quand ma toto a l'électricité, Bambeto attend comme chez le coiffeur. Qu'on a crié électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. On a crié électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. Une femme malade dans l'un de ses quartiers, panne d'électricité, en pleine opération. Un enfant qui veut étudier dans l'un de ses quartiers, panne d'électricité, comment peux-tu faire? Conakry, électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. Conakry, électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur.
Conakry, électricité de Tikenja Fakoli dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes avec le sociologue Gérard Dubé et le socio-anthropologue Alain Gras qui viennent de publier « La servitude électrique du rêve de liberté à la prison numérique » aux éditions du Seuil. Une servitude qui fait rêver les 600 millions d'Africains qui n'y ont pas accès ou alors dans des conditions difficiles, comme le démontre ce reportage au marché de Lomé, la capitale du Togo.
Je m'appelle Davovi Afiwa. Je suis secrétaire dans le marché de Hankope. Nous vendons du charbon. Le charbon maintenant devient de plus en plus cher. Les lieux de ravitaillement deviennent de plus en plus loin, si bien que la vie devient un peu difficile parce que nous n'avons pas accès aux marchandises que nous vendons. Il y a de moins en moins de bois. Nous courons vers les bois jusqu'au nord maintenant, à Mango, à Bassa, à Pagala.
À plus de 500 km de Lomé.
Oui, à plus de 500 km de Lomé. Donc, la rareté du bois fait que nous devenons de plus en plus inquiets de nos activités. Nous avons un syndicat maintenant pour pouvoir faire du reboisement, mais le reboisement au Togo ne sont que des techs. Or, les techs ne sont pas appropriés pour le charbon. Nous voulons maintenant que le gouvernement s'engage à accompagner les syndicats pour faire un vrai reboisement qui puisse réanimer ou bien revivre la forêt togolaise pour protéger notre environnement.
Parce que le tech, c'est les arbres qui sont coupés derrière nous. Là, en fait, on les fait pousser en 2-3 ans, on les coupe pour justement les remettre dans le marché. Donc, ce n'est pas du reboisement à long terme.
Non. Les techs ne sont pas du reboisement à long terme.
Vous utilisez le charbon, vous ?
Oui, j'utilise du charbon. Au moins 3 000 francs de charbon par mois. Nous sommes au nombre de 6. Et avec ces 3 000 francs de charbon, je fais un mois avec le foyer amélioré.
Est-ce que c'est vraiment efficace ? Vous consommez moins de charbon ?
Oui, ça fait beaucoup d'économies.
Mais en même temps, c'est pas bon pour votre travail, puisque du coup, vous vendez moins de charbon.
Ça fait moins de travail, mais pour sauvegarder l'environnement aussi, ça doit aller comme ça. C'est pourquoi nous sommes très inquiets maintenant. Que, bon, du jour au lendemain, on ne sait plus comment est-ce qu'on va faire. Donc, quand nous utilisons les foyers améliorés comme ça, ça diminue la consommation et ça sauvegarde aussi la forêt. C'est pour cela même qu'on veut de vraies essences qui peuvent nous sauvegarder nos activités.
Parce que sinon, il n'y aura plus d'énergie pour faire la cuisine au Togo.
Oui, on n'aura plus d'énergie pour faire nos ménages. On ne sait plus ce qu'on va devenir.
Alain Gras, vous avez vécu au Togo et au Ghana. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ? On y parle d'énergie, mais d'énergie primaire. Ou voilà, à Lomé, pour pouvoir cuisiner, la seule ressource, c'est le charbon de bois.
Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est dans toute l'Afrique, de toute l'Afrique, c'est pas seulement là. Hein. Mon fils a fait un film Makala sur les charbonniers au Congo, à RDC. Et en fait, on voit qu'effectivement, on défriche de plus en plus loin la forêt et ce n'est pas une solution. Donc, en réalité, on est face vraiment à un attentat au marteau et l'enclume parce que si on remplace cette énergie par une fausse énergie qui est l'électricité, à part quoi sera-t-elle produite ? Ça sera produite par une source qui est le charbon dont elle parle et qu'elle utilise sous une autre forme dans des centrales thermiques qui produiront de l'électricité. Et du coup, le problème, effectivement, est extrêmement difficile à résoudre. Et la Chine investit énormément dans des centrales à très, très haute température qui permettront à l'Afrique de s'électrifier. Mais simplement, où va-t-on ? Parce que si on passe de la petite entreprise de gaz sur Lomé, sur la personne dans sa famille à Lomé, qui en même temps, si je comprends bien, elle vend du charbon de bois, et chez elle utilise du charbon fossile.
Non, elle utilise du charbon de bois.
Elle utilise du charbon de bois aussi chez elle. J'avais compris qu'elle utilisait du charbon fossile. Donc, vous voyez, je ne sais pas où est la solution.
Alors, il y a les barrages, hein, l'énergie hydraulique qui prend de l'ampleur aussi sur le continent africain.
Alors, évidemment, les barrages, et en particulier, il y a le grand barrage Renaissance là, sur le Nil Bleu, puis l'autre, Omo, c'est ce qui se passe en Éthiopie actuellement. Les barrages modifient radicalement le milieu de vie. Ils sont en fait destinés à une production industrielle d'énergie. Ils sont destinés à un développement industriel de l'Afrique. Mais ce n'est pas ça qui résoudra les problèmes quotidiens des Africains. Cela dit, c'est déjà une avancée, mais une avancée qu'il faut faire à petits pas, parce que les barrages gigantesques, en fait, fabriquent une pauvreté en amont et une grande modification des structures sociales en aval. Parce qu'on fait une agriculture industrielle en aval du barrage qui sert à la fois pour l'électricité et pour l'irrigation. Et en amont, ça absorbe tous les fleuves, toutes les petites rivières qui permettaient une irrigation naturelle. C'est encore beaucoup plus vrai pour la Mésopotamie, pour la Turquie et tout ça. Mais en général, les barrages ne sont pas nécessairement une bonne chose pour quelques pays que ce soit. Or, actuellement, c'est la coqueluche du Fonds monétaire international. J'ajoute que les barrages produisent du méthane. Il y a une énorme quantité de méthane qui est produite par les barrages.
Oui, mais si vous dites que les centrales à charbon qui sont proposées au continent africain pour avoir accès à l'énergie et les barrages ne sont pas des bonnes solutions, en même temps, il y a une nécessité d'énergétiser le continent.
Oui, non, mais c'est pour ça que tout ce que je dis, il faut le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que les barrages, il ne faut pas s'enticher sur les barrages et dire ça va être la solution. Mais il est évident que les barrages sont une solution provisoire dans le développement de l'Afrique et des pays émergents. Ça, j'en doute pas. Mais il faut faire très attention à ne pas les multiplier n'importe comment.
Gérard Dubé ?
Non, simplement, j'ajouterais que pour construire un barrage, il faut des moyens, évidemment, financiers et économiques considérables. Donc derrière, il y a aussi toute la question politique du pouvoir, hein, qui est capable de construire ces barrages, ensuite d'en assurer la maintenance, etc. Il y a des groupes d'intérêts puissants, financiers, qui sont forcément derrière. Donc il y a aussi une perte d'autonomie au niveau local, des producteurs d'énergie et de la façon de consommer l'énergie. Donc on est toujours dans ce même processus de délocalisation, hein, et de perte finalement de maîtrise de son environnement immédiat, hein, pour un grand nombre d'habitants de cette planète, avec toujours une concentration plus grande des moyens.
Alors, dans votre livre, vous êtes très critique vis-à-vis des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. Vous mettez en avant les coulisses de ces énergies pas si propres que cela, finalement, comme le démontre aussi le journaliste Guillaume Pitron dans La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique, son livre publié aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Moi, je pense que nous ne résolvons pas le problème de la pollution des ressources. Nous faisons que le déplacer. Lorsque nous changeons de modèle énergétique, nous nous débarrassons du pétrole, mais nous tombons dans une autre dépendance, à mon avis bien plus grave, à d'autres matières premières. Nous avons imaginé que l'après-pétrole, c'était un après-rien. Mais en fait, il n'y a pas rien. La nature a horreur du vide. Il faut remplacer ce pétrole par des métaux rares et les courbes de production depuis des années et les cours de production à venir de ces métaux rares sont exponentiels. Et ça va générer d'immenses problèmes environnementaux qui seront probablement aussi colossaux que les problèmes environnementaux que cette transition énergétique s'était promise de résoudre. Il faut quand même comprendre, c'est que le numérique repose sur un postulat qui est un leurre total. Ce leurre total, cette mystification, c'est la suivante. C'est l'idée que parce que nous allons vers le digital, nous allons nous affranchir de la matière. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir envoyer un email plutôt que d'avoir à écrire une lettre sur du papier qui est de la matière physique et de la faire transiter via une voiture qui génère du CO2. Mais en réalité, un email, ça a un coût environnemental considérable, un email. Et toute l'infrastructure, le léviathan numérique qui se trouve derrière un simple email et qui plus est derrière un algorithme, c'est quoi ? C'est des millions de milliards de kilomètres de câbles en cuivre. Ce sont des serveurs, ce sont des data centers, ce sont des câbles, je l'ai dit, mais ce sont aussi des fusées qui doivent envoyer des satellites et avec des ordinateurs qui doivent calculer la bonne orbite. Et donc, pour pouvoir mettre ces satellites sur la bonne orbite de manière à ce que ces satellites nous renvoient l'information en temps réel et nous géolocalisent sur nos téléphones portables. Et ça, c'est quoi ? C'est de la matière physique, ce sont des métaux rares. Et donc, sous couvert de nous affranchir de la matière, eh bien en réalité, nous sommes retrouvés dans un système qui nécessite le recours exponentiel à toujours plus de métaux rares. Donc la situation est ubuesque. On dit on va faire moins et en réalité pour faire moins on a besoin de faire plus.
Mais alors est-ce que c'est lié au fait que ce sont par exemple les Occidentaux qui imaginent ces technologies et qu'on délocalise la production de ces métaux rares, donc leur pollution, donc on ne la voit pas. En fait, ceux qui consomment et ceux qui polluent ne sont pas aux mêmes endroits, c'est ça le problème.
C'est exactement ça. Et donc c'est la formidable imposture, selon moi, pardon d'employer ce terme très fort.
On peut parler d'hypocrisie même.
C'est une immense hypocrisie de cette transition énergétique qui nous fait croire que nous allons dorénavant limiter notre impact sur les écosystèmes et que le moindre de nos gestes ne sera plus générateur de carbone, alors que simplement, c'est la politique de l'autruche. Nous ne voulons pas voir qu'à 3000, 4000, 5000, 10 000 km d'ici, il y a des gens qui sortent la caillasse d'un trou pour produire des métaux rares. Tant que nous n'aurons pas sous nos fenêtres que nous ne verrons pas, que nous n'apprécierons pas l'intégralité des coûts écologiques réels générés par notre soif de high-tech et de technologie verte, eh bien nous continuerons de nous mettre les mains sur les yeux, de nous enfouir la tête comme les autruches dans le sol pour ne pas voir la réalité de l'impact considérable sur l'environnement des technologies vertes. Par ailleurs, et je pense que c'est une raison pour laquelle aussi il faudrait absolument réexploiter des mines, notamment en France en fait, qui a beaucoup de réserves minières, c'est que en délocalisant la pollution, nous avons laissé les pays les moins regardants sur les standards environnementaux produire des minerais, qui expliquent pourquoi une éolienne salit en réalité. Mais si demain nous relocalisons en France où les standards environnementaux sont meilleurs, eh bien nous produirons des minerais de façon un peu moins sale. Je dis pas propre, mais un peu moins sale.
Alain Gras, alors l'éolien et le solaire ne sont pas si propres que cela.
Non, je suis entièrement d'accord avec Guillaume Pitron, c'est exactement ça. Il a des mots très violents, peut-être plus violents que nous sur l'imposture, même l'hypocrisie, mais c'est exactement cela. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, justement, à propos de l'Afrique, peut être vu différemment, parce qu'on peut apporter des petites structures éoliennes dans les villages et éclairer les villages avec ça. Mais c'est le grand réseau, toujours la question du macrosystème, c'est le grand réseau qui en fait privilégie ces formes-là, parce qu'en fait l'éolien, c'est quand on vous dit d'énergie verte à propos de l'électricité qui soi-disant est prise sur l'éolien, non, c'est pas vrai, on est dans un grand réseau qui est principalement en France alimenté par le nucléaire. Et bien ailleurs, c'est par le pétrole, le gaz, surtout. Donc, en fait, ces grands réseaux, c'est une hypocrisie, comme vous le disiez, mais il faut souligner que c'est une hypocrisie parce qu'on nous met sur, on met l'éolien sur des réseaux. Et en fait, ils ont une capacité d'appoint qui est limitée. Et si jamais l'éolienne ne marche pas, comme au Texas, par exemple, récemment, eh bien, dans ce cas-là, on essaye d'avoir, parce qu'au Texas, même ça, ça a gelé, des techniques d'appoint. Ces techniques d'appoint, c'est des techniques fossiles. On réinvente des centrales pour essayer de coordonner une alimentation électrique qui, en fait, est très désordonnée par l'éolien et le photovoltaïque. Il y a un problème là de base, c'est que ces énergies-là ne sont pas des énergies de flux, qui ne sont d'un flux qui n'est pas continu, qui est totalement discontinu. Donc là, c'est un autre aspect de celui problème que soulève Guillaume Pitron, c'est un autre aspect, mais qui est très important. Et par conséquent, la seule possibilité de faire fonctionner ces éoliennes, c'est de les brancher sur d'autres sources thermiques, et qui sont des sources thermiques fossiles. Donc, l'éolien, je suis entièrement d'accord avec Guillaume Pitron, ce n'est valable que si nous changeons, c'est ça qu'il disait à la fin, que si nous changeons nos modes de comportement vis-à-vis de l'énergie. C'est-à-dire que si nous acceptons une décroissance de nos besoins énergétiques. C'est la seule solution possible.
Gérard Dubeil, vous êtes d'accord avec Alain Gras, hein, vous avez écrit le livre ensemble, livre dans lequel vous dites que le solaire et l'éolien ne seront, quoi qu'il arrive, que des énergies d'appoint.
Il faudrait aussi ajouter que, en fait, notre consommation énergétique en électricité, par exemple, ne fait que croître. Et que, par exemple, avec l'arrivée de l'Internet des objets, l'IoT, avec l'arrivée de la 5G, évidemment, cette consommation énergétique et électrique ne va faire qu'exploser. Donc, même si on développait, si on couvrait la Terre d'éoliennes, ça ne suffirait encore pas, parce qu'on a le sentiment que l'énergie est illimitée, que cette énergie s'est dématérialisée, désensibilisée, elle s'est déréalisée. On a l'impression que c'est quelque chose qui tombe quelque part du ciel, voilà, qui nous est donné, qui nous grimpe gratuitement. Et du coup, on a des usages qui sont complètement déconnectés des contraintes naturelles et aussi sociales. Donc, je ne vois pas d'issue du tout dans le développement de ces énergies dites renouvelables.
Et d'ailleurs, vous citez l'ONG allemande Urgewald et l'Institut américain spécialisé Coalswarm, qui disent qu'environ 250 entreprises chinoises ont mis en place plus de 1600 projets de centrales à charbon dont la construction est déjà lancée ou prévue. à l'échelle mondiale, Alain Gras, le roi charbon a de beaux jours devant lui.
Oui, absolument. C'est un peu... Actuellement, c'est redevenu la première énergie. Hein. C'est la première énergie primaire. 40% de l'électricité. L'électricité est produite par le charbon. Je veux dire, l'énergie primaire est utilisée pour l'électricité. Hein. Donc, effectivement, le charbon, contrairement à ce qu'on nous dit, est en fait le premier moyen de faire survivre notre monde qui est tellement gourmand d'énergie qu'on ne sait plus comment faire. Et on nous laisse croire que le vent et le soleil peuvent résoudre les problèmes, mais c'est évident qu'il faut bien considérer que c'est une source d'appoint, que ça ne sera jamais plus. Toutefois, il y a quand même quelque chose que l'on doit ajouter, c'est que toutes ces énergies sont fondées sur une idée de démesure. Le problème de notre technologie, c'est qu'elle est démesurée, qui correspond peut-être à l'expansion du capitalisme tel qu'il se pense aujourd'hui. Et par exemple, en Chine, on fait pour les gentilles voitures électriques de Pékin, on a des réseaux de 3200 km qui viennent du pays ouïghour. On sait ce qui se passe. On alimente donc Pékin en électrique, en électricité verte, à partir d'une énergie fossile, charbon, venue du pays ouïghour. Donc, l'électricité, c'est aussi la porte ouverte à toutes les hypocrisies dont on parle aujourd'hui à propos du progrès.
Gérard Dubé.
Le mensonge, l'imposture, dont parlait l'intervenant tout à l'heure sur la transition énergétique, c'est de croire que justement, il y a substitution d'une énergie par une autre, que les énergies renouvelables vont finalement remplacer les énergies fossiles. En fait, il y a à chaque fois, et depuis l'aube de la modernité, il y a accumulation, il y a addition des énergies. C'est-à-dire que là, on a le pétrole, on a le charbon, on a le nucléaire, et maintenant, on a les énergies solaires, les énergies hydrauliques, etc. Mais en fait, c'est une addition, c'est une accumulation. Et globalement, ça va toujours dans le sens d'une croissance de la consommation énergétique.
Et en plus, si on ajoute à cela l'effet rebond, ça devient encore plus compliqué. Mais en quelques mots, l'effet rebond, expliquez-nous ce que c'est.
Bon, l'effet rebond, ça remonte à 1860, où on pensait qu'on n'allait plus avoir de charbon suffisant en Angleterre et que donc il fallait limiter la production de charbon. Et puis en fait, donc il fallait améliorer le matériel de machines à vapeur. On a amélioré ça et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une demande qui croissait parce qu'on consommait moins de charbon pour son confort. Donc, on a chaque fois que l'on a amélioré la technologie en termes de gourmandise énergétique, eh bien, on a provoqué au contraire une demande de plus en plus grande parce que ça paraissait, comme aujourd'hui, ça paraissait plus gentil avec la nature et moins cher. C'est-à-dire, ça paraissait vert. Mais en fait, en réalité, c'est comme les voitures électriques. Voyez, c'est exactement ça, l'effet rebond des voitures électriques qui pour l'instant n'a pas encore vraiment une grande ampleur, mais qui peut se produire. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas vraiment un effet rebond, mais c'est quand même lié à ce que disait Gérard sur le numérique et les nouvelles connexions. C'est les bitcoins. On est dans l'empire du virtuel avec les bitcoins. Or, les bitcoins consomment une énergie folle. Personne ne le dit. C'est une catastrophe. Et les data centers, c'est la rigolade par rapport à ce qu'on appelle les mines de bitcoins. Et cette fuite en avant est absolument gigantesque. Et c'est cette démesure de la technologie dont il faut sortir, et on peut sortir en fait qu'en pensant à une autre société.
Comme vous l'écrivez dans votre livre, il faut guérir du mal de l'infini. Alors, les technologies de communication, vous l'avez dit, se sont développées en parallèle des technologies électriques. Et aujourd'hui, avec le numérique, nous arrivons à un paroxysme. Nous en parlons juste après un petit tour en Allemagne avec Bukhara, Canaries in a Coal Mine.
Down here in their cages, they've never seen the trees. And for too long, it's always getting darker and harder to breathe. 'Cause we are sensitive to the colorless and orderless fear. And every prejudice is poison in the air down here. So when you see us falling from our perches, it's time to evacuate. If you believe that they would never
Flight is a choice to make for each and every one of us. 'Cause for too long, they keep on digging deeper into yesterdays. The day will come when we would slowly disappear without a trace. So when you see us falling from our perches, it's time to evacuate. If you believe that they would never hurt us, when they do, it will be too late. We are canaries in a coal mine. Canaries in a coal mine.
We are
afraid of the dark side.
When they start
talking about the old times, we are the first to miss the daylight. We are down here in the cold night, and we are dreaming of moonshine. They say everything will be fine, but the first of us are already dying.
Canaries in a coal mine de Boukhara dans ses pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes avec le sociologue Gérard Dubey et le socio-anthropologue Alain Gras qui viennent de publier « La servitude électrique du rêve de liberté à la prison numérique » aux éditions du Seuil. Gérard Dubey, pourquoi parlez-vous de prison numérique? On a l'impression, au contraire, que le numérique nous offre plein de liberté. On peut désormais s'affranchir presque de l'espace et du temps.
Précisément, c'est peut-être parce que ça donne le sentiment qu'on s'est affranchi de l'espace et du temps et d'un certain nombre de contraintes aussi bien liées à la nature que contraintes sociales, que nous nous enfermons de plus en plus à la fois dans ces macro-systèmes techniques dont on vient de parler tout à l'heure, mais aussi on s'enferme également dans une forme d'identité recluse. Derrière l'usage des technologies numériques se jouent des représentations de l'individu, des définitions de l'individu, de la façon dont l'individu se pense dans le monde et se pense dans ses relations aux autres. Et ce qu'on voit se développer avec dans les usages de ces technologies numériques, c'est une forme de ce qu'on peut appeler une hyper-autonomie. C'est-à-dire que finalement, ces technologies sont appréciées parce qu'elles nous permettent finalement aussi de nous passer d'autrui et de ne plus avoir à demander finalement d'aide, d'assistance à autrui. Quelque part, elles nous donnent l'impression d'être complètement indépendants, complètement libres de nos désirs, de nos actes. Et là, c'est une forme d'enfermement en soi, puisque ça nous coupe de tout rapport à l'autre. Il faudrait donner des exemples pour illustrer ça, mais si je prends simplement l'exemple de l'utilisation du GPS sur nos smartphones, eh bien, avec ce GPS, dans la rue, dans l'espace commun, quand je cherche ma route, j'ai pu m'adresser à un inconnu, par exemple, que je serais susceptible de rencontrer. Je ne vais plus m'adresser à lui, je vais directement aller voir sur mon système GPS qui va me donner une information effectivement très fiable et très précise sur l'endroit où je veux me rendre. Mais en même temps, je vais perdre l'occasion d'établir un lien, d'avoir une relation avec quelqu'un que je ne connais pas dans l'espace public, peut-être qui pourrait déboucher sur quelque chose d'un peu plus aventureux, peut-être risqué parce que je n'arriverai peut-être pas au point que je voulais, à l'endroit que je voulais atteindre, mais je vais vivre une relation, je vais vivre quelque chose qui était improbable, qui était imprévu et qui va être riche de sens. Donc là, il y a une fermeture sur soi. Ces objets, la plupart du temps, vont un peu dans le sens de cet individu du néolibéralisme, quoi, qui serait une sorte d'îlot, d'identité recluse et puis capable d'exister sans les autres.
Voilà. Et Alain Gras, cette prison numérique s'est refermée sur nous avec la crise sanitaire que nous traversons en ce moment.
Ah oui, évidemment. Mais ce qui est amusant, c'est que ce que dit Gérard, au lieu de demander son chemin à une personne, on regarde sur son smartphone où est l'adresse. C'est envoyé par un satellite qui tourne à 35 km au-dessus de nos têtes. Donc, il a fallu envoyer le satellite, c'est relayé par d'autres satellites d'information qui est en basse orbite, 3 km. Bon, on a un ensemble structurel pour fabriquer ce GPS, pour fabriquer, disons, le raisonnement GPS. C'est là ce que dit Gérard, c'est que nous sommes complètement confinés dans un espace qui n'est plus le nôtre. On est en rapport avec un espace à 35 km de hauteur, d'altitude, pardon. Vous voyez, c'est quand même aberrant. Au lieu de demander à la personne qui est à côté de chez nous, à côté de notre voiture ou de notre trottoir. Il y a quelque chose qui est aberrant dans cette volonté d'aller toujours plus loin dans la technologisation de notre vie quotidienne. Et c'est quelque chose qui justement devrait être mis en cause de plus en plus souvent par les médias, par une réflexion simplement sur notre volonté d'être avec les autres plutôt qu'avec soi-même.
Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Hein. Aujourd'hui, nous sommes confinés, nous sommes privés beaucoup des relations avec les autres. Et du coup, même si, par exemple, nous faisons cette émission de façon virtuelle, nous serions beaucoup plus heureux si nous étions tous ensemble en studio.
Beaucoup plus, parce que justement, j'aime pas du tout, je suis un vieux crabe, j'aime pas du tout cette relation par l'écran avec vous. Et il y a quelque chose de fabuleux. Est-ce que c'est le destin? Est-ce que ce sont les dieux qui l'ont décidé? Mais pourquoi ça arrive, ce Covid qui nous met comme ça dans un distanciel perpétuel, arrive à ce moment-là, au moment où se développe la 5G et d'autres technologies qui vont toutes nous mettre dans cette même façon de voir le monde, cette nouvelle vision du monde qu'elles apportent avec elles? Il faut absolument comprendre que la technologie est une vision du monde.
Gérard Dubé.
C'est-à-dire, c'est cette vision du monde, on en parle à l'un. Elle commence à être un peu ébréchée, à se fissurer. Et justement, le phénomène Covid, en exacerbant certains traits de cette vision du monde, en particulier la distanciation physique et sociale qu'elle produit, produit aussi la conscience d'un manque et d'une absence, hein, l'absence de l'autre, et l'absence, justement, met peut-être en relief et en évidence l'importance des relations sensibles aux autres, des relations sensibles au monde. Moi, si je parle de mon expérience de téléenseignant, c'est un tout autre métier qu'enseignant, téléenseignant. Il faut s'adapter à l'outil. Hein. D'abord, comme enseignant, c'est beaucoup plus fatigant comme expérience parce qu'on ne reçoit pas l'énergie du groupe. Il y a une véritable énergie du collectif qui disparaît complètement. Donc, il y a une fatigue qui s'installe. Bon, on prend conscience de cette fatigue. Voilà, ça révèle certains aspects, certaines conséquences de cette vision du monde lorsqu'elle s'applique au quotidien et qu'elle est subie et non pas voulue. Là. Et par ailleurs, il y a des choses intéressantes. Je pensais, moi, qu'on allait survaloriser l'image. On est quand même dans une civilisation de l'image, de l'écran. Hein. Et en réalité, ce qu'on utilise le plus en visio, en téléenseignement, c'est la voix humaine. C'est-à-dire que quelque part, on redécouvre l'importance de la voix et de l'infini, de la gamme infinie des inflexions de la voix. C'est-à-dire qu'on retrouve un lien sensible à travers la voix et on travaille ce lien sensible et on voit à quel point, finalement, il y a de nouveaux infinis là qui se dessinent, qui s'esquissent. Tout à l'heure, vous faisiez référence au mal de l'infini, associé à cette vision du monde capitaliste et productiviste dont parlait Alain. Mais il y a aussi, c'est plutôt, ce dont on prend conscience, c'est qu'il s'agit plutôt de combattre un mauvais infini et qu'il y a d'autres manières d'aborder et d'entrer dans l'infini que celui qu'on nous propose aujourd'hui. Et par exemple, la voix humaine, la sensibilité à la voix humaine, le fait de redécouvrir l'importance de la voix humaine et de ses modulations, eh bien, ça peut faire partie des changements qui sont en train de se produire de façon un peu souterraine pour l'instant, un peu parallèle, comme ça. On met pas encore le projecteur là-dessus, c'est encore un petit peu diffus. Mais il me semble que ce sont des changements d'attitude et de rapport au monde qui sont en train de se dessiner, qui sont très importants.
Alors, face au constat que vous faites dans cette émission et que vous avez donc écrit avec beaucoup plus de détails dans votre livre, j'avoue que en lisant votre livre, je me suis dit ce que se disent peut-être les auditeurs, c'est « mais alors, que propose-t-il ?» Parce que si on critique les énergies, quelles qu'elles soient, les énergies renouvelables, développement du numérique, etc., etc., quel monde, quelles solutions proposer? Et en fait, vous vous en sortez à la fin par une pirouette en disant bah, « écoutez, nous, on ne propose rien, on dit juste aux gens, voilà, prenez ce qu'on vous dit et créez à partir de cela, quoi ». Donc, en guise de conclusion, j'aimerais vous demander soit de refaire la pirouette, soit de vous retomber sur vos pattes. Alain Gras.
Ce que je voudrais dire, c'est que le monde dans lequel nous vivons ne doit pas être orienté par le progrès technique tout seul. Et j'adore la technique, mais une technique qu'on peut maîtriser, une technique qui reste humaine. Nous sommes entrés dans une technologie galopante qui déshumanise totalement nos rapports. Et il faut donc retrouver une technologie qui soit à notre niveau, qui en fait construit une relation sociale, s'insère dans le tissu. Et pour cela, il ne faut pas laisser les grandes entreprises, les savants, entre guillemets, qui peuplent ces laboratoires, décider pour nous. La 5G, c'est à nous de dire si oui ou non nous la voulons et à quoi ça va nous servir. En fait, toutes les technologies auparavant étaient passées au filtre du social jusqu'à l'anthropocène. C'est à la fin, et disons que c'est la deuxième moitié de l'anthropocène, que le filtre du social n'a plus joué. Au nom d'un progrès dont personne ne concevait très bien ce que ça voulait dire, mais on nous avait appris que cela existait. Et donc, la manière de s'en sortir, pour répondre à votre question, ce n'est pas une technologie, c'est une nouvelle manière de penser le monde. C'est repenser le monde d'une façon qui soit à la hauteur de notre corps et de notre esprit. C'est cela que je voudrais dire.
Gérard Dubé, votre conclusion ?
Oui, c'est difficile de ne pas verser dans les généralités, mais je rejoins Alain. Nous, on n'a pas un positionnement, on ne se situe pas dans le solutionnisme technique, hein, ni dans l'ingénierie sociale. On ne va pas dicter aux gens d'en haut, comme ça, ce qu'ils doivent faire. On n'est pas dans le culte de l'expert et de l'expertise. Hein. Je crois que c'est plutôt être de plus en plus attentif aux expérimentations sociales qui se produisent partout aujourd'hui et qui découvrent, en fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, un petit peu de nouveaux infinis, quoi. D'autres infinis que ceux que nous offrent le confort et les facilités de nos technologies numériques telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Moi, je prends très au sérieux, par exemple, la question de l'intermittence des énergies renouvelables. Quelle question nous pose l'intermittence des énergies renouvelables dans notre rapport au temps, dans notre rapport quotidien au temps ? L'intermittence, c'est le discontinu, c'est l'irrégulier, etc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on réintroduise, qu'on réapprenne à vivre justement avec plus d'irrégularité, plus de discontinuité, avec revivre, réapprendre à négocier avec l'incertitude, avec l'incertain ? Est-ce que ce n'est pas là que sont les enjeux de cette nouvelle vision, de cette autre manière de penser le monde dont parlait Alain ? Je crois qu'il faut sortir un petit peu d'une sécurité factice, une sécurité factice que nous donne ces technologies, tout le développement des macrosystèmes techniques et de ces technologies. Commencer à comprendre d'abord que cette sécurité, elle produit beaucoup d'insécurité, elle produit parfois de l'incertitude qui devient intraitable, comme avec le nucléaire par exemple, et qu'il y a d'autres manières de vivre l'incertitude que celle-là. Voilà. Si je devais résumer, mais c'est très...
C'est résumé. Merci. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, même virtuellement. Je rappelle le titre de votre livre, La servitude électrique du rêve de liberté à la prison numérique. C'est publié aux éditions du Seuil. Merci à Maëlle Roudot et à François Porcheron pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité, bien sûr. Prenez soin de vous et des vôtres et rendez-vous demain. Même planète, même heure.
À l'heure sur RFI.